Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 29. Voici Marie Mollet, Olivier Bois, Laurent Tessier, Brice Dugier, Greg Caranoni et Cyprien Simon.
Allez,
incroyable ce générique. Alors le sommaire d'abord, Cyprien, vous nous faites de belles promesses ce soir.
Plongeons dans un océan d'optimisme. Ce soir, on vous emmène dans le monde de demain. Ce sera comment quand on sera presque tous vaccinés? Immersion dans ces pays qui sont en train d'en finir avec le Covid. Anxiété, stress, fatigue passagère. On défait le monde, prends soin de vous ce soir. Tous les petits trucs et astuces pour faire voyager votre esprit grâce à un psychiatre de renom, le professeur Le Joyeux, qui nous éclairera de son savoir. Comme tous les vendredis, vous découvrirez qui se cache derrière le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, c'est le cargo qui a raté son créneau. Hein.
Oui, ou comment une rafale de vent a fait dérailler le commerce mondial.
Le billet retour dont défait le monde, 2 mois que l'administration Biden est en place. Et le nouveau président avait promis beaucoup en 100 jours, Brice.
Oui, en 65, certains objectifs sont déjà atteints, mais il y a encore du boulot.
D'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, un lave-linge ambulant pour la bonne cause et évidemment, le cadeau. Et alors là, c'est du très lourd.
Ah, hein. Ah oui.
Un week-end pour deux, en 4 étoiles, au bord de la Méditerranée, en Corse. Les pieds dans l'eau. Ça fait rêver, c'est énorme. La question du jeu, ce sera vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 29.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Cette semaine, c'est Olivier Bois.
Formidable. Je m'attendais à des surprises, effectivement. Alors ça promet.
En tout cas, voilà, ça laisse Brice sans voix. Hein.
Oui, c'est vrai.
On défait le monde dans RTL Soir.
Alors comme toujours, on va commencer, Cyprien, si je ne fais pas d'erreur, par le surf de la semaine.
Tout à fait. Eh bien sans plus attendre, on démarre tout de suite par la blague de la semaine. Elle est signée Olivier Véran devant les députés. Alors je vous préviens, attention, elle est très bonne.
Il n'y a jamais eu de religion anti-vaccinodrome.
Excellent. Il n'y a jamais eu de religion anti-vaccinodrome. Mais non, jamais.
Vous ne voyez pas d'image de vaccinodrome, ça n'aurait pas de sens.
Non, pas des immenses vaccinodromes, je n'y crois pas.
Nous avons fait en France un autre choix que je revendique.
J'ai fait un choix qui de ne pas aller vers 50 vaccinodromes à l'échelle du pays.
Ah, jamais, jamais. Mais dites donc, on n'aurait pas un problème avec la culture de l'erreur ou de l'excuse en France? Vous savez, à reconnaître qu'on s'est planté. Non, parce que en Grande-Bretagne, Boris Johnson.
I am deeply sorry for every life that has been lost, and of course has got us.
Il dit qu'il est vraiment désolé et qu'il assume toutes les responsabilités pour les morts, etc. En Allemagne, Angela Merkel cette semaine.
Cette idée de pause à Pâques était une erreur, même si elle avait ses bonnes raisons. Cette erreur est uniquement la mienne.
Elle assume s'être trompée. En Suisse, le président de la Confédération.
Au niveau du Conseil fédéral, nous avons fait peut-être une certaine erreur d'appréciation.
Mais alors, en France, rien. Éventuellement, oui. Sur le fiasco Stop Covid, par exemple, bon là, on aurait pu dire, oh, on s'est planté, bon, c'est pas grave. Mais non, on dit...
Alors, c'est... Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Ah, c'est pas un échec, hein, c'est que ça n'a pas marché. Ah, la richesse de la langue française. Et puis, cette pensée présidentielle complexe qui nous fascine tant. Oui, vous le savez, parfois, le président, on a un peu de mal à le suivre. Exemple comme ça, quand il explique simplement et clairement, et je vous préviens, c'est sans montage.
L'intelligence artificielle nous renvoie à ce qui serait l'hypothèse leibnizienne selon laquelle il y a plusieurs mondes possibles. Et il y a donc quelque chose... d'une option presque prométhéenne qui nous permet de revisiter la conception du monde de Leibniz, c'est prométhéen, dans ce que cela comporte d'ambivalence. Autrement dit, nous devons réussir à faire que cette utopie prométhéenne ne devienne pas une dystopie.
Oui, bon, je crois qu'il est assez clair. Eh bien, cette semaine, on a enfin découvert le secret de la pensée macronienne. Oui, attention, interview à la télé grecque, et là, tout va s'éclairer, écoutez bien.
Quand je veux me rassurer, je me réfugie dans l'équivalence parménidienne.
Mais oui, évidemment, les amis, quand il veut se rassurer...
Quand je veux me rassurer, je me réfugie dans l'équivalence parménidienne.
Eh oui, il y en a qui mangent du chocolat pour se rassurer, puis il y en a qui se réfugient dans l'équivalence parménidienne. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est, hein. La pensée parménidienne de Parménide, philosophe grec d'avant Aristote. Et finalement, c'est très simple à comprendre, hein, Parménide, puisque...
Parménide, pour lui, ce qui compte, c'est juste la logique, parce que nos sens nous trompent. Et le mec te sort un truc incroyable, une idée qui va marquer la philosophie pour des siècles. L'être est et le non-être n'est pas.
Ouais, c'est vrai que c'est vachement rassurant de penser ça. Presque aussi rassurant que ce nouveau vaccin qui arrive cette semaine sur le marché. Mais alors, il est dispo que chez le maire de Perpignan, Louis Alliot. Nous, on a AstraZeneca, Pfizer, et Louis Alliot, il a...
Monsieur Vaxin disait qu'il n'avait aucun élément sur les études faites sur le fameux vaccin Pfister à l'époque.
Hop, 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 le Pfister. Alors, vous, vous faites comme vous voulez, mais moi, le Pfister, je le sens moyen. N'oubliez pas, hein, ce week-end surtout, on change d'heure aussi, et du coup, l'explication dont défait le monde.
L'hiver, on avance d'une... Non, attendez, on perd une heure de sommeil, et on la récupère l'été. Ben non, pardon, quand il est 8 heures, du soir,
Laissez tomber. De toute façon, vous n'aurez qu'à regarder sur votre smartphone. Ça se fait automatiquement. Et vivement la semaine prochaine, à la bonne heure, évidemment. Et
du coup, j'ai toujours pas compris parménidienne la définition.
C'est parménidienne, c'est une philosophie grecque. Parménide.
D'avant Aristote, non, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup. Ça
RTL Soir, on défait le monde.
Alors tout de suite, la grosse info de la semaine, vous avez décidé de nous faire voyager.
Oui, de s'évader un peu de notre quotidien et de se projeter dans le monde d'un peu après. De celui de la fin de l'été par exemple, de celui d'un pays qui aura bien vacciné, on finira par y arriver. Et puis Laurent, il y en a qui sont déjà dans cette phase d'après, vous avez enquêté.
Oui, vous avez sûrement vu ces images en Israël, les bars, les restaurants, les magasins ouverts, la vie qui reprend. Alors, comment ont-ils fait? Bien, tout part de la vaccination. 56% des Israéliens ont reçu une première dose, 50% ont eu les deux doses du vaccin. Aujourd'hui, on parle même de 650 cas quotidiens. Oh. Et le professeur Cyril Cohen est immunologue à l'université de Bar-Ilan en Israël. Il travaille avec le ministère israélien de la Santé.
Aujourd'hui, en Israël, on revit. C'est une vérité. Mais il faut comprendre que l'on vit avec le Covid-19. C'est-à-dire que les gens sont toujours avec des masques parce que nous restons prudents.
Mais même avec une majorité de gens vaccinés, il vient de dire qu'ils gardent des masques.
Oui, actuellement, le port du masque est obligatoire aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On avance lentement. Il faut dire que le pays a vécu 3 confinements, mais le retour des jours plus heureux est là. Le pays a mis en place le badge vert, le passeport vaccinal. C'est un précieux sésame qui indique que vous êtes vacciné, que vous avez reçu les deux doses. Et vous allez l'entendre au restaurant, il y a 2 modes de fonctionnement.
Nous permettons en Israël aux gens non vaccinés qui n'ont pas ce badge vert ou non convalescent d'aller au restaurant, d'être assis en terrasse. Et pour le reste, si vous êtes vacciné, vous avez aussi le choix, vous pouvez manger à l'intérieur du restaurant.
Et on garde une distance d'à peu près 1,50 m entre chaque table. Les restaurants sont remplis à 50-75%. Des avancées aussi dans les théâtres, exemple.
Permettre ce qu'on appelle la moitié de la capacité justement du lieu, c'est-à-dire que si par exemple dans un théâtre il y a 500 places, nous permettons à 250 personnes d'assister justement à un spectacle, mais en maintenant par exemple un siège libre entre chaque personne ou entre chaque famille.
Et des festivités sont prévues aussi le jour de l'indépendance, le 14 mai avec de grands concerts, mais là les concertations sont en cours pour tout définir s'il faut le badge vert ou non.
Et en dehors des bars où on est Israël pour l'école et le télétravail, ça se passe comment Laurent?
Alors pour les CP, CE1, CE2, il n'y a plus de classes divisées. Au-dessus, on a toujours des groupes. Pour l'université, la visio a été vraiment une révélation et se poursuit avec le présentiel. Et concernant le travail en Israël, il y a un certain nombre d'industries dans la haute technologie, l'informatique. Et là, le télétravail est toujours préconisé. Donc le pays retrouve une vie un peu plus normale. Mais pour la retrouver entièrement, il va falloir encore être patient.
Notre optique aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec la Covid-19, peut-être encore 1 an, 2 ans ou 3 ans. S'il y a une chose que nous avons appris, c'est l'humilité. Ce virus nous a joué beaucoup de tours et continue à nous en jouer.
Et l'arrivée de nouveaux traitements pourrait réduire ces prévisions, mais ça calme quand même alors qu'un Israélien sur deux a reçu les deux doses de vaccin.
Donc là, Laurent, on est dans le cas d'une reprise de la vie un peu plus normale grâce à la vaccination. Mais alors, comment ça se passe dans d'autres pays?
Alors, on va aller encore plus loin. En Chine, à Wuhan, là où la Covid-19 a fait son apparition, 11 millions d'habitants, un confinement strict l'an dernier, 76 jours, une économie à l'arrêt, suivie d'un déconfinement progressif à partir du 8 avril, le testing de masse, l'intelligence artificielle. Le docteur Philippe Klein dirige une clinique privée à Wuhan et depuis...
La vie, en fait, a complètement repris normalement pour nous à Wuhan. C'est de l'histoire ancienne. Il n'y a pas eu de cas positif depuis mai 2020. Donc oui, ce virus a disparu de la ville de Wuhan, il a disparu de la Chine continentale.
L'activité culturelle, les musées, les cinémas, les bars, tout fonctionne normalement, mais pas seulement.
Depuis avril-mai, l'activité économique de la Chine, de Wuhan, elle est redevenue normale. On va à son travail de façon normale, c'est à l'automne 2020. L'activité scolaire a totalement repris en Chine, et aujourd'hui, l'activité scolaire, elle est normale.
Normal, voilà, c'est un mot qui revient, mais une chose leur rappelle tout de même la pandémie.
C'est le le port du masque, parce qu'on continue à porter le masque à Wuhan, bien que ce soit plus obligatoire, mais ça montre bien la peur qu'ont eu les Chinois.
Et la vaccination de masse a démarré, 20% de la population à Wuhan est vaccinée, Wuhan reste sous haute surveillance, les autorités restent extrêmement vigilantes.
Merci beaucoup Laurent Tessier, on fait une pause dans un instant. La première info pour briller au dîner de la soirée, ce sera avec vous Marie Mollet, on va parler d'humour en politique.
Exactement.
L'humour, toujours, ça marche toujours l'humour en politique.
Ouais, attends, on va se poêler.
Vous allez voir.
C'est beau.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Alors Marie Mollet, vous nous donnez la première info pour briller au dîner ce soir.
Oui, et vous le savez peut-être pas, mais il existe un prix de l'humour en politique qui, chaque année, décerne la palme du meilleur calembour, du meilleur mot d'esprit prononcé par nos ministres ou nos élus au détour d'un meeting ou d'un discours. Ça existe depuis 1988. Les nommés 2020 ont été annoncés cette semaine, parmi lesquels Marlène Schiappa ou Jean Castex. Alors pour pouvoir briller au dîner, je voulais vous faire un petit quiz, puisque Cyprien m'a dit qu'il était imbattable. Donc
j'adore les quiz, mais c'est pas sympa de mettre la pression.
On va voir ça. Aïe. Qui a dit ?
Nadine Morano, c'est habituel. C'est la castafiore pour moi. Elle est sympa, mais elle énerve tout le monde.
L'ancienne ministre de Sarkozy.
Oui, oui, oui.
Fadela Amara.
Bravo. Fadela Amara, 2008, Nadine Morano.
J'ai pas les réponses. Hein.
Sa nomination au gouvernement. Deuxième son, attention, la phrase élue par une journaliste. Qui a dit ?
Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas.
Ah, c'est, on dirait Elisabeth Martichoux.
Oui, c'est Elisabeth Martichoux qui parle, mais c'est pas elle qui a prononcé. Qui est le ministre qui a prononcé.
On peut réécouter
phrase. On pourrait écouter cette phrase, s'il vous plaît, Grégory Garanoni.
Un petit peu. Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas.
Ah, c'est.
C'est pas évident.
Raymond Barre ?
Non.
Non, je sais pas. Là,
c'est François Goulard, ancien ministre de Jacques Chirac entre 2005 et 2007. Là, c'était un peu difficile. Troisième son, beaucoup plus facile. Attention, c'est encore un journaliste qui le lit, qui a dit.
Il ne faudrait pas que celui qui vient de donner son sperme s'en lave les mains.
Je pensais que celle-là vous l'auriez. Non, c'est Christine Boutin. Christine Boutin, 89, en plein débat sur la fécondation in vitro. Je précise que c'était de l'humour involontaire.
Ah ouais, pas mal. Bravo. Et
merci Marie pour toutes ces infos pour briller. On en fait une autre dans un instant avec Laurent.
Allume la lumière.
Alors, allume la lumière quand un spécialiste nous éclaire, Cyprien, sur l'actualité.
Et ce soir, on a décidé de prendre soin de vous, chers amis. On parle de plus en plus des ravages psychologiques du Covid. Stress, anxiété, fatigue.
On s'est donc demandé les différences qu'il pouvait y avoir entre déprime et dépression et surtout s'il y avait des trucs et astuces pour mieux passer cette période difficile.
On a donc contacté le professeur Le Joyeux, psychiatre, chef de service à l'hôpital Bichat et auteur du livre « Les quatre temps de la Renaissance » aux éditions Lattès. Séance de psy gratos dans On défait le monde avec d'abord, comme quand on va chez le médecin, un point sur notre état général.
On va faire la différence entre celles et ceux qui peuvent avoir besoin d'un avis médical et puis celles et ceux qui sont juste stressés, angoissés, fatigués. La perte d'envie, la culpabilité, la perte d'estime de soi, les troubles du sommeil et de l'appétit. Tant qu'on les a pas, on est stressé, on est agacé et on est finalement vivant. Vous savez, tant qu'on a des émotions négatives à chaque fois qu'on nous annonce un peu plus de confinement, un peu plus de virus, c'est que notre machine intellectuelle, émotionnelle est active et vivante. Le pire serait qu'on soit indifférent. Le pire serait qu'on nous annonce les chiffres catastrophiques de l'épidémie et que finalement on n'y réagisse pas. Ça s'appelle en psychologie l'alexithymie, l'incapacité à éprouver des émotions. Donc quand vous éprouvez des émotions d'inquiétude, des émotions de tristesse, voire de colère, vous avez là un signe d'activation, si j'ose dire, et de votre cerveau et de votre appareil psychique.
Donc Cyprien, tant qu'on est en colère, c'est pas trop grave, tant qu'on ne souffre pas d'alexithymie, ça va à peu près. Vous en apprenez des mots.
L'alexithymie, l'incapacité à éprouver des émotions. On le répète, on sait jamais, ça pourrait vous servir pour la suite de l'émission. Bref, donc on est stressé, angoissé. Et alors là, pour aller mieux, on fait quoi, docteur ?
On peut, par exemple, prendre des petits rendez-vous avec soi. On va, pas maintenant, bien sûr, mais couper la radio, couper le téléphone, couper l'ordinateur, s'aider d'une musique planante, éventuellement d'une image qui nous fait rêver. Et pendant 10 minutes, on va placer son état, son esprit en situation de rêverie. Et en plaçant son esprit en situation de rêverie, on développe ses capacités de résilience. Et celles et ceux qui, en situation de stress, sont capables de rêver, de se déconnecter pendant 10 minutes, vont mieux résister au stress. nous sommes traversés par des émotions négatives, par des contraintes. Rien ne nous empêche, et c'est une réalité, de commencer à nous projeter au moment où tout cela sera derrière nous. C'est Alain qui disait « Le pessimisme est de nature, tout nous pousse au pessimisme. L'optimisme est de combat. » Et vraiment, tant qu'on n'est pas atteint d'une véritable maladie psychiatrique, on est face à un stress et je crois que nous avons en nous ces moteurs de résilience.
Et à part ces petites coupures qui permettent de s'évader, pour combattre l'anxiété, est-ce qu'il a d'autres conseils, le professeur Lejoyeux ?
Évidemment, surtout un, ne pas rester seul, écoutez.
Nous pouvons, malgré ces contraintes, programmer un moment d'activité physique et un moment en lien avec l'autre. Vous savez, si on ne peut pas voyager, on peut quand même, malgré les questions de distanciation sociale, rencontrer celles et ceux qu'on aime, voire à distance, mais quand même de temps en temps les rencontrer. On peut organiser des moments de convivialité avec le nombre de participants qui est imposé. N'oublions pas que tout seul, un homme seul est toujours en mauvaise compagnie, une femme seule aussi, tout seul, on aura plus de mal à résister à tout cela qu'avec des collègues, des copains, de la famille. Tous ceux qui sont autour de nous sont des figures d'étayage.
Eh bien voilà, on n'a plus qu'à mettre en pratique maintenant, Cyprien. Il est 18h35, 19h35.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller au dîner, le loser de la semaine et surtout le jeu The Game.
Oh. Oui, le jeu.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et la deuxième info pour briller au dîner, Laurent, à propos de baguettes.
Oui, vous savez que la France veut faire inscrire la baguette au patrimoine de l'UNESCO. Mmh. La candidature va être présentée. Mais pourquoi est-elle de forme allongée ?
Oh.
Ah, ça c'est une bonne question.
Ouais, ça c'est une bonne question.
Alors, la légende raconte qu'elle permettait aux soldats de Napoléon III de transporter le pain dans les poches de leurs uniformes. Mais une autre version, un peu plus sérieuse, parle d'une loi votée en 1919. Elle interdisait aux boulangers de travailler avant 4h du matin. Ils n'avaient plus assez de temps pour confectionner leur traditionnelle boule. Là, la cuisson est plus rapide, la baguette devient un produit plus facile à réaliser et gagne notre cœur à tous.
Ah, super info pour briller.
Ouais. Ah, vous êtes fair play.
Merci. Non, c'est intéressant.
RTL. Le loser de la semaine.
Ah, le loser, le grand perdant de la semaine. Et là, franchement, le vieil adage, plus c'est gros, plus ça passe, vient d'en prendre un coup, Marie, hein, puisque vous revenez sur le cargo star de la semaine.
Et oui, Ever Given, le super tanker de 400 mètres de long, qui est venu s'encastrer dans le sable, un poupe la première en plein canal de Suez. Alors, on imagine le moment de grande détresse du capitaine, mardi matin à 7h45. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah bah non,
ça passe pas,
ça s'est vraiment joué à rien. Alors il n'y a pas eu de casse, hein, mais pour la première fois depuis 1975, le canal de Suez est coupé, branle-bas de combat dans le monde entier.
Breaking news. Giant container ship that's stuck in the Suez Canal.
Fortschritte im Suez Canal.
Un calo no canal de Suez.
Le trafic est paralysé.
La situation est grave. Aussitôt, les autorités égyptiennes prennent les choses en main. Réactivité, puissance de feu, pas le temps de tergiverser. Alors elles envoient sans hésiter la grosse cavalerie. Et oui, des mini-pelles taille cure-dent pour aller gratter au pied du cargo géant. Hein. L'image est presque touchante, on se dit que ça va être long. Alors j'exagère un peu, hein. Des remorqueurs ont aussi été dépêchés sur place, deux entreprises privées ont été recrutées. Évidemment, le sauvetage est extrêmement complexe. D'ailleurs, la dernière tentative vient d'échouer ce soir.
Oui, exactement. Et cet accident, Marie, va provoquer des conséquences en chaîne, hein, jusqu'à l'autre bout du monde.
Et oui, 12% du commerce mondial paralysé, des bateaux qui se déroutent pour contourner l'Afrique, mais qui n'ont pas forcément assez de fuel dans les cales pour entamer ce périple. Ouais. Des cargaisons d'aliments qui peuvent pourrir sur place dans les containers, des bouchons dans tous les ports de commerce, foire d'empoigne pour re-réserver les grues qui vont, elles, décharger les docks, et de l'argent perdu, beaucoup d'argent, estimé à 10 milliards par jour.
Alors, il y a quand même une question. Comment ça a pu arriver un truc pareil ? Parce que le canal de Suez, ça date pas d'hier quand même.
Non, mais alors pour l'instant, on parle de rafales de vent qui auraient déporté le bateau, de tempêtes de sable qui auraient brouillé la vue. Certains spécialistes disent que ça paraît un peu léger comme explication. Peut-être une erreur humaine. Ah. Alors on pense très fort à quelqu'un qui doit se faire tout petit en ce moment.
C'est C'est vrai qu'il est mal, là.
C'est vrai que cette histoire de rafale de vent, c'est étonnant, parce qu'il fait quand même 220 000 tonnes le cargo, le porte-container,
hein.
Ça soufflait fort. Enfin, j'ai vu 75 km/h, c'est vrai que ça paraît étonnant quand même comme explication.
Oui, oui, c'est sympa.
Alors, le jeu maintenant, hein, c'est si je ne fais pas d'erreur, on a un cadeau à vous offrir.
Ah ben alors, c'est le moment, hein, les gens n'écoutent que pour ça, c'est le moment que vous attendez tous.
Non, pour vos blagues aussi, quand même.
De Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caradoni. Oui. Alors vous prenez carrément pour une agence de voyage maintenant. Hein.
Oh bah écoutez, on doit récompenser les auditeurs dont défait le monde.
Oui.
Ils ont envie de, peut-être envie de partir au ski.
Ouais.
On vous envoie pas du tout au ski ce soir.
Ah. Non.
Ah, petite ambiance estivale. Imaginez la Corse.
Ah oui.
La Corse du Sud.
Oh là là. Ouais.
Dans un sublime hôtel 4 étoiles.
Oh.
Le Pinarel. C'est vrai que ça écrit Pinarello.
Vous dites avec l'accent.
Oui, je me suis un peu entraîné, je voulais me mettre un peu dans l'ambiance. Il est face à la baie de Pinarello, c'est l'une des plus belles baies de Corse. Vous y passerez 4 jours incroyables. Les pieds dans l'eau, car l'hôtel est directement posé sur la plage de Pinarello.
Pour...
C'est un hôtel intime avec des terrasses privatives sur la mer pour chacune des chambres. Il y a un spa, une piscine sur le toit, avec une vue magnifique sur la baie turquoise face à l'hôtel. J'espère que vous avez l'image.
Ah oui.
4 jours. 3 nuits de rêve. Tout ça vous attend dans la baie de Pinarel. C'est une adresse intime au bord de la mer, non loin de Porto Vecchio. Porto Vecchio, quoi. Pour le reste du continent. Comme... Non, mais sur le continent, on dit Porto Vecchio, mais c'est vrai qu'en Corse, on dit Porto Vecchio. Allez voir sur le site lepinarello2l.com. Je vous mets un peu dans l'ambiance encore.
Ah oui, bien.
J'aime bien ne pas être dans les clichés.
Merci Grégory Caranon.
Une question pour ça.
Ouais. Alors Caranon, il a fait le truc. Maintenant, il y a la question. Vous savez, est-ce que pour y aller à Pinarello, il faut répondre
ça
à la question. Alors, notre psychiatre, tout à l'heure, nous a appris un mot savant hein, pour décrire l'incapacité à éprouver des émotions. Quel est ce mot savant? Est-ce que c'est l'alexithymie, la Jean-Maurice Timmy ou la vive les ch'timis?
Oui.
Alexis Timmy, Jean-Maurice Timmy, vive les ch'timis. Vous avez la bonne réponse, 32-10. On tirera en sort parmi les bonnes réponses. Je rappelle le cadeau, hein. Week-end en 4 étoiles en Corse quand même.
Cyprien Cine.
Merci Greg Caran.
On défait le monde sur RTL.
Alors le billet retour maintenant, Cyprien, quand on revient sur une info qui a fait la une, c'est le droit de suite dont défait le monde.
Et souvenez-vous, c'était il y a 65 jours, j'ai compté précisément. Joseph Robinette Biden prêtait serment et devenait officiellement président des États-Unis d'Amérique. Pendant toute la campagne, il a fait beaucoup, beaucoup de promesses concernant ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. On s'est dit qu'après 2 mois, on pouvait faire un premier bilan. Il avait par exemple dit ça.
100 million shots in the first 100 days.
100 millions d'injections pendant les 100 premiers jours. Bon, on va commencer par ça, Brice, d'abord. Est-ce qu'il a réussi ce premier pari?
Oui, certains disent que d'ailleurs ce n'était pas très ambitieux, pas très difficile à réaliser. Il n'empêche qu'en 58 jours, l'administration Biden a atteint cet objectif, 100 millions d'injections, donc 42 jours avant le fameux terme promis.
Et donc l'objectif est revu à la hausse.
Oui, c'est d'ailleurs le président lui-même qui l'a dit.
Now today I'm setting a second goal, and that is... We will, by my 100th day in office, have administered 200 million.
Voilà, l'objectif n'est plus de 100 millions. Il a été doublé, 200 millions d'injections d'ici le 30 avril, donc le 100e jour de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et ben pour cela, les États-Unis ont mis en place ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire les grands moyens. Centres de vaccination géants, 4000 militaires de la garde nationale qui assurent la logistique, la fluidité des passages. Montre en main, en 15 minutes... Vous êtes vacciné, puis derrière 15 minutes d'attente sur une chaise isolée pour être sûr que vous ne fassiez pas de réaction immédiate. Rendez-vous pour la deuxième injection et vous sortez. Avec cette méthode, un centre de New York a réussi à vacciner 14 000 personnes en une seule journée.
C'est Hollywood, c'est à l'américaine.
C'est à l'américaine.
Mais alors, comment ils peuvent frapper aussi fort par rapport à nous, par exemple?
Alors d'abord, les Américains, ils se sont jetés sur toutes les doses possibles, parfois même en les payant très cher. Et ils ont accumulé, avec tous les labos, plus de 700 millions de doses pour... 320 millions d'habitants. Ils ont même réussi à faire s'entendre des laboratoires qui jusqu'ici étaient totalement concurrents pour qu'ils travaillent ensemble. Ils ont assez de doses pour piquer les 266 millions d'Américains de plus de 16 ans d'ici l'été. Et d'ores et déjà, 65% des plus de 65 ans l'ont été. Il y a une dernière chose, c'est qu'aux États-Unis, les personnels soignants, beaucoup de personnels soignants, sont autorisés à piquer. Je m'explique, en France, vous savez, il y a eu le débat sur les pharmaciens, les vétérinaires, etc. Ouais. Là-bas, les médecins, les opticiens, les étudiants
les
en médecine, les ambulanciers, les vétérinaires, les podologues peuvent vacciner. Donc forcément, ça fait beaucoup plus.
Non, mon podologue, il peut même pas me faire un certificat pour le sport.
Ouais, alors je connais pas bien votre podologue. Il n'empêche, c'est une approche qui est totalement différente de la nôtre. Et face justement à cette accélération, eh bien, il y a dans le même temps la proportion, vous savez, d'anti-vax aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui étaient encore un peu réticents. Eh ben, cette proportion chute. C'est peut-être aussi dû au fait qu'on a appris récemment que Donald Trump, le prédécesseur de Joe Biden, s'était fait vacciner très discrètement à la Maison Blanche avant de partir.
Bon, alors pour la vaccination, pari réussi pour Biden, pour le reste ?
Alors pour le reste, vous savez, on parle du plan de relance de l'économie, 1900 milliards de dollars, c'est à peu près 1600 milliards d'euros, avec notamment un chèque de 1200 euros pour la plupart des Américains. Ce plan est gigantesque, selon les économistes, évidemment ça va booster les États-Unis. Joe Biden voulait profiter, c'est peut-être son échec, de ce plan pour, vous savez, rehausser le salaire minimum, il voulait le passer à 15 dollars de l'heure. Ça n'a pas été validé par le Sénat américain, qui sous la pression des lobbies des grandes entreprises. Donc c'est peut-être l'échec de Joe Biden dans cet énorme plan de relance économique.
Mais il y a quand même deux gros dossiers sur lesquels on l'attend encore, j'imagine, parce qu'on ne l'a pas trop entendu, je ne sais pas, les armes à feu et l'immigration aussi, on en reparle, qui explose à la frontière du Mexique.
Absolument. D'ailleurs, le président Biden a répondu hier aux impatiences sur ces sujets. Ah. Écoutez.
I got elected to solve problems. And the most urgent problem facing the American people, I stated from the outset, was COVID-19.
J'ai été élu pour régler les problèmes. Et le problème le plus urgent, c'était le Covid-19 et ses conséquences économiques. Mais je n'ignore rien des autres. Et d'ailleurs, Kamala Harris, la vice-présidente, a été mandatée par Joe Biden justement sur ce problème d'immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On l'entend, elle remercie le président pour sa confiance et de lui avoir donné cette mission parce qu'on l'a vu ces dernières semaines, énormément de migrants venus d'Amérique latine arrive à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le rôle de Kamala Harris, ce sera à la fois, dit-elle, de faire respecter la loi, donc de ne laisser entrer que ceux qui peuvent entrer, mais aussi d'entamer une discussion avec tous les pays d'Amérique latine dont sont originaires ces personnes pour essayer d'en comprendre les raisons de cette immigration. Ça, c'est une approche différente par rapport à Donald Trump. Et enfin,
c'est le moins
qu'on puisse dire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il sait aussi qu'il est très attendu sur le dossier des armes. Et là, on va rentrer un peu dans le dur. C'est-à-dire, sur le Covid-19, c'est pas très compliqué d'avoir un consensus politique, évidemment, pour lutter contre la pandémie. La question des armes, la question de l'immigration, ce sera beaucoup plus difficile. Et là, il rentre dans un terrain inconnu à Joe Biden de ne pas trébucher.
Ah, et là, vous faites allusion à la façon
dont il est montré dans l'avion
présidentiel.
Exactement. En montant, il a trébuché sur la passerelle. Et certains y ont vu trois fois. Deux fois, non ? Trois fois, peut-être. Et certains y ont vu une allégorie, justement, des nouveaux dossiers qui arrivent désormais sur le bureau du nouveau président des États-Unis.
Merci beaucoup, Brice Dugénie. Il est 19h48. C'est quoi la suite, Cyprien, alors ?
On défait le monde.
La dernière info pour briller au dîner. Deux jeunes filles à l'initiative solidaire et innovante. Et vous découvrirez qui a gagné le séjour en Corse. Qui sait, c'est peut-être vous. Ou vous, peut-être.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La troisième info en l'occurrence pour briller au dîner, Cyprien.
C'est un peu le mot de la semaine, vaccinodrome. Pour parler d'un endroit géant où on fait des vaccins. Eh bien sachez-le, le suffixe drôme, utilisé pour vélodrome par exemple, vous qui adorez le vélo. Ouais. Hein. Bon bah vélodrome, ça veut dire en fait drôme, ça vient de dromos, ouais. Le suffixe drôme. Qui signifie en grec « action d'être en mouvement » ou alors le mot « la course ». Vaccinodrome, littéralement, c'est donc la course au vaccin. Mmh. Et franchement, comme nous en ce moment, bah c'était difficile de trouver plus adapté finalement.
Bien franchement, vu. C'était parfait, ces trois infos pour briller. On a parlé grec, c'était très enrichissant. Merci beaucoup Cyprien.
Marche ou rêve.
Et comme toutes les semaines, on va mettre en valeur des initiatives, des projets.
Et Cyprien, cette semaine, qui vous présentez, alors cette semaine, Laurent, on avait envie de mettre en avant deux jeunes filles qui se sont lancées dans un projet à la fois très ingénieux et surtout solidaire.
Ouais, je vous présente Camille et Alexine, 25 ans. Elles sont étudiantes en deuxième année de master innovation sociale à Rennes. Elles ont pour objectif de mettre en place une laverie mobile pour les sans-abri, mais aussi pour les personnes précaires, isolées. Nom du projet, Candicar, ça veut dire laverie mobile en breton.
Ah, okay.
Bonsoir Alexine.
Bonsoir.
Alors, comment vous est venue cette idée ?
Alors nous, on est parti d'un constat, en fait, qu'il y avait beaucoup de maraudes qui étaient faites à Rennes et dans sa métropole au niveau de l'alimentation, de tout ce qui était don de matériel, de vêtements, mais il y avait peu de choses qui étaient faites au niveau de l'hygiène. Et comme l'hygiène, ben, c'est un besoin vital pour nous toutes et tous, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, on se lance, et c'est de là d'où est venu le projet Candicar.
Bah, c'est une super idée, mais alors comment ça marche concrètement, vous baladez avec des machines à laver, l'électricité, enfin, c'est pas simple, quoi.
C'est ça, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un utilitaire. Donc en fait, ce sera un utilitaire dans lequel se trouvera deux machines à laver et deux sèches-linges. Et l'idée, elle est toute simple, en fait, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de laver leur linge à des lieux stratégiques et précis dans la ville de Rennes et de sa métropole.
Et comment vous alimentez en électricité les machines à laver dans l'utilitaire? Enfin, je
Alors,
pose des questions techniques.
Mais... oui, c'est bien aussi. En fait, on va se brancher sur des places de marché, par exemple, où il y a déjà des D'accord. raccords électriques. Donc ça, on est en lien avec la ville de Rennes pour tout ce qui est logistique électrique et aussi par rapport à l'eau. Donc voilà, donc ce sera beaucoup plus simple.
C'est un service gratuit, Alexine, hein, qui fonctionnera donc, dans un premier temps dans la ville de Rennes. Hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. On insiste sur le fait que c'est gratuit. On a pu discuter avec plusieurs bénévoles, enfin, futurs bénévoles. Pour eux, enfin, pour certains, c'est hyper important de pouvoir participer au projet. Donc, on aura un petit cochon dans le camion, dans lequel on pourra, les bénéficiaires pourront mettre ceux qui veulent. Mais on part vraiment du principe que ça doit être accessible à toutes et tous. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait que le projet sera gratuit. Et il le sera. Soit gratuit.
Et pour financer votre projet, vous faites comment ?
Alors, du coup, pour financer notre projet, on a lancé un appel aux dons aujourd'hui pour le matériel, surtout pour le camion, la camionnette et pour les machines à laver. C'est le gros du projet, en fait. C'est ce qui nous coûte le plus cher. Et on lance mi-avril notre campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Si vous voulez suivre le projet, il y aura toutes les informations qui seront sorties en temps et en heure.
Et la ville de Rennes, ils peuvent pas vous donner un peu de sous aussi ?
Alors, la ville de Rennes, non, mais ce sera plus par rapport au département qui s'occupe de toutes les actions sociales à travers le CCAS notamment. Donc voilà, on est en lien avec eux. Et puis, c'est un projet qui plaît et ça plaît aussi à d'autres associations rennaises avec lesquelles on va travailler de concert. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire sur des actions. Il y a par exemple une association rennaise qui va proposer un service de douche. Et nous, l'idée, c'est de se greffer à ce service de douche pour faire profiter d'une offre plus complète aux personnes qui ont besoin de cet accès à l'hygiène simplifiée.
Et si vous nous regardez sur RTL.fr, vous pouvez voir la photo juste derrière nous de Camille et Alexine. On rappelle le projet Candicar Laverie Mobile en breton.
Merci beaucoup Axeline et bravo franchement pour cette très belle initiative. Cyprien, qui a gagné le voyage en Corse ?
Et oui, nous avons un gagnant, enfin peut-être un gagnant. Martin de Vichy, bonsoir Martin.
Bonsoir.
Alors, comment s'appelle le fait, je vous repose la question, on sait jamais quand même, hein. Comment s'appelle le fait de plus avoir de sentiments, de plus avoir de sensations, le mot technique ?
C'est la réponse. Ah, du coup, c'est timide.
L'Alexis Timmy, tout à fait, vous avez gagné le voyage en Corse ! Donc, je rappelle, Martin, que vous gagnez 3 nuits, 4 jours dans un hôtel 4 étoiles à Pinarel.
À Pinarel, Martin. Ah, c'est à voilà, côté de Porto-Vecchio, dans le sud de la Corse. C'est vraiment un 4 étoiles. Allez jeter un œil sur le site lepinarello.com avec deux L. Je vous assure, ça va être magique. Vous nous envoyez pas une carte postale, c'est peut-être un peu ringard, mais une photo sur les réseaux sociaux.
Vous êtes déjà allé en Corse, Martin ?
Non, jamais allé en Corse. Alors moi, je suis en école de journalisme, donc j'espère voyager beaucoup et donc ça sera l'occasion, justement.
Ah ouais, formidable ça. En plus, vous êtes un futur, peut-être un futur de l'équipe dont défait le monde, qui sait.
Avec grand plaisir, je serai là.
Non, en tout cas, super. Vous savez avec qui vous allez partir ou pas encore ?
Je pense que je vais partir avec ma meilleure amie et puis un ami. Enfin, je sais pas encore réfléchi. Voilà.
On peut vous aider, hein.
Oui. Moi, je connais du monde qui partirait bien avec vous. Hein. J'ai vu les photos de l'hôtel, ça a l'air vraiment bien.
D'accord. Moi, je prends autre dernier aussi. Il faut voilà, y a pas de souci.
Ah, super. Merci beaucoup, Martin, en tout cas, pour votre fidélité. Merci. Et on compte sur vous pour la carte postale. Hein. On défait le monde. Merci. 56 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine.
C'est avec plaisir, à bientôt, merci beaucoup.
Merci Martin, bon courage pour la suite de vos études.
Ça y est, c'est fini, ça prie, hein ?
Bah
c'est
déjà. Prie, hein, ça prie, hein. C'est oui, mon petit Olivier, c'est déjà fini, ça va vite. Hein.
C'était un plaisir d'être avec vous ce soir, merci beaucoup.
Vous aussi, vous avez été très bien.
Ah c'est vrai, oui. C'est gentil ça. Bon,
vous avez peut-être le droit de réécouter votre jingle du coup.
Allez, ah oui, on y va, on est pour l'aventure. Cette semaine,
Mais vous changez toutes les semaines en ce moment, ce sera peut-être un nouveau la semaine prochaine.
Ça nous coûte un fric fou en cœur tout ça.
On passe le bonjour d'ailleurs à Stéphane Carpentier. Que vous retrouvez la semaine prochaine. Donc on va faire une pause. Merci Marie Mollet.
À la semaine prochaine.
Merci Laurent Tessier, merci Cyprien.
Merci Brice.
À la semaine prochaine, on fait une pause. Ce sera le flash de 20h avec Alexandre de Saint-Aignan et la grande soirée sport sur RTL avec toute l'équipe des sports. 20h-21h, on parle de foot. L'avant-match de rugby, 21h, l'intégralité. Rugby, à tout de suite.
On défait le monde sur RTL.